Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanche du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Au début de son livre titré « La culture des individus, dissonance culturelle et distinction de soi », publié en 2004 aux éditions La Découverte, le sociologue Bernard Lahire prend un exemple qui lui paraît un exemple paradigmatique d'un individu ayant des goûts hétérogènes, des goûts éclectiques. Il cite Wittgenstein, le philosophe, hein, il dit voilà, Wittgenstein il s'intéressait à la fois à la philosophie, la plus austère, la plus complexe, et au western, justement. Et donc le western ici... dans cette introduction à la culture des individus de Bernard Lahire, le western est vu comme le symbole même du divertissement de masse, comme le symbole même de la culture populaire, de la culture non légitimée par l'institution. Donc le western semble avoir, par rapport par exemple à la philosophie, hein, à laquelle il est comparé, un statut culturel inférieur, et semble donc être assez loin du statut d'œuvre d'art, parce qu'il est peu probable que Lahire aurait vu comme une bizarrerie que Wittgenstein s'intéresse à la philosophie, à l'opéra par exemple, hein, voilà, donc c'est le western. Et donc il convient de s'interroger sur le western justement comme moyen de s'interroger sur les hiérarchies culturelles, les hiérarchies en art et les processus de légitimation. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre, qu'est-ce qui fait qu'une production est considérée comme légitime ou pas, est considérée comme noble ou pas, etc. Eh bien, ce que je vais essayer de montrer dans cette chronique, c'est que la portée d'une œuvre dépend aussi, et peut-être même essentiellement, de ses conditions de réception. Autrement dit, si on pose les questions, peut-on penser le western comme un art? À quelles conditions un western peut-il être considéré comme une œuvre d'art? Tous les westerns peuvent-ils être considérés comme des œuvres d'art? Quand y a-t-il art? Le cinéma est-il un art? Peut-on penser le cinéma comme étant un art? Eh bien, ces questions, on voit, elles en soulèvent d'autres. Et la manière même de poser la question implique une réflexion, parce que, bien évidemment, le mot « art » n'a pas un sens univoque. Est-ce que l'art, c'est une essence? Est-ce que c'est une simple convention contingente? Quels sont les critères? Et on sait très bien que la notion d'art est une notion relativement récente dans la pensée par rapport au caractère très ancien des productions esthétiques chez les êtres humains. Autrement dit, il y a deux problèmes différents qui vont devoir être abordés. Premier problème, c'est de savoir si le cinéma est un art, si le cinéma peut être considéré comme un des beaux-arts. Problème qui n'est pas aussi évident que ce qu'il paraît, bien évidemment. Deuxième problème, à l'intérieur du cinéma, en admettant que le cinéma puisse être un art, est-ce qu'on peut distinguer à l'intérieur du cinéma des œuvres d'art, des productions qui ne relèveraient que du divertissement de masse et du commerce? Voilà, est-ce qu'on peut faire des distinctions internes au cinéma entre les films commerciaux, etc., et les œuvres d'art? Donc cette question des frontières, cette question des limites, eh bien, elle est posée de manière tout à fait aiguë par le western, justement, hein, qui est un genre qui n'est pas évident à aborder par rapport à cette question. Alors, si on prend la question déjà de savoir si le cinéma... est un art, avant même de parler du cas particulier du western et peut-être même du cas particulier encore de certains westerns par rapport à d'autres, eh bien il faut revenir en fait à la fin du 19e, au début du 20e siècle, à l'époque où le cinéma émerge, à l'époque où il est inventé et où justement le cinéma naît dans un contexte de divertissement populaire au départ et pas dans des institutions de légitimation culturelle. C'est un prestidigitateur qui, d'une certaine manière, qui invente le cinéma comme art, c'est Méliès. Et donc le cinéma va pâtir au départ d'un problème de reconnaissance. D'ailleurs, le cinéma ayant ce problème de reconnaissance, certains réalisateurs vont se dire « Tiens, pour faire sérieux, on va essayer de ressembler à un art qui, lui, est légitimé, qui, lui, est considéré comme noble et sérieux, le théâtre. » Et donc, Il y a des cinéastes qui se pensent malins en filmant des pièces de théâtre avec des intertitres, bien sûr, à l'époque, puisqu'on est dans le muet. Voilà, des pièces de théâtre qui sont filmées comme ça, en plan fixe, comme si le fait de filmer un art noble, ou supposé tel, pouvait ennoblir le cinéma. Et puis, il y a d'autres cinéastes, bien sûr, qui vont, au contraire, chercher les pouvoirs spécifiques de ce nouvel art. C'est Méliès, c'est Chaplin, c'est Abel Gance, c'est Griffith, c'est Eisenstein, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans tous les cas, la légitimation d'une pratique culturelle, la légitimation d'un art, elle passe par le discours théorique, par le discours des experts. C'est vrai pour le cinéma et c'est vrai aussi, comme on le verra surtout dans la prochaine chronique, pour le western. Alors le discours, il crée des concepts dans lesquels on va pouvoir percevoir les œuvres. Et notamment, il y a un concept qui est créé dans ces années-là, au tout début du XXe siècle, qui est le concept de septième art. Alors l'expression, elle est de Riccio Toccanudo, qui est donc un intellectuel du début du XXe siècle, qui écrit ceci, je le cite. « Tous les arts, avant de devenir un commerce et une industrie, ont été à leur origine des expressions esthétiques de quelques poignées de rêveurs. Le cinématographe a eu un sort contraire, commençant par être une industrie et un commerce. Maintenant, il doit devenir un art. » Fin de citation. Il doit devenir un art, il doit devenir un art. Voilà vraiment le souci de légitimation, le souci de donner une légitimité culturelle à une pratique qui, au départ, n'en a pas, ou du moins n'en a pas une de manière évidente. Alors pourquoi d'abord est-ce que le cinéma est suspect du point de vue de sa noblesse et de sa légitimité? D'abord, il y a le poids des contraintes techniques, qui fait que le cinéma semble être plus affaire de technicien que d'artiste, hein, parce qu'il n'y a aucun autre art dans lequel le poids des contraintes technique est aussi lourd. Deuxièmement, le cinéma est une création nécessairement collective. Et on peut se demander devant un film qui est vraiment l'auteur. Est-ce que c'est le scénariste? Est-ce que c'est l'auteur de la musique? Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce que c'est les acteurs? Et bien sûr, c'est un peu tout ça en fait. Donc cette idée qu'on ne puisse pas évidemment attribuer l'œuvre à un créateur, à un artiste, à quelqu'un qui pourrait la signer, pose problème. Autre problème aussi qui va toujours peser sur le cinéma, c'est le poids des investissements financiers. Pour faire un film, bien évidemment, ça coûte cher, donc il faut investir de l'argent, et quand on investit, ben, y a un souci de rentabilité, qui fait que le cinéma va avoir toujours cette tendance vers le commercial, beaucoup plus que d'autres formes d'art qui sont moins coûteuses au niveau de l'investissement. Alors, pour ennoblir l'art, pour lui donner une légitimité, Canudo va le référer aux autres arts, justement. Il va le comparer aux autres arts en disant, voilà, c'est un art parce qu'il s'inscrit dans une filiation. Et là, la question se pose de savoir quels sont les différents arts. Si on doit faire une liste des beaux-arts, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Cette question, elle n'est pas du tout évidente, hein, bien évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, le concept d'art est un concept récent dans l'histoire de la pensée, même si aujourd'hui il nous paraît familier. C'est un concept très récent. Et donc, il y a une hésitation sur la classification. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme faisant partie de l'art ou pas?
C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles, enculé? C'est à moi que tu parles? Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, 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 c'est à moi que tu parles? Mec, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, mec!
Alors Canudo, il va créer, donc je l'ai dit, la notion de septième art en se référant à la hiérarchie de Hegel, à la classification de Hegel. Donc pour Hegel, en fait, il y aurait six arts principaux. Il y aurait d'un côté les arts de l'espace. Les arts de l'espace, ça serait d'abord l'architecture et ensuite la sculpture et la peinture. Donc des arts qui s'inscrivent dans l'espace. Et puis il y aurait les arts du temps. Il y aurait d'abord la musique et la danse et la poésie. Donc ça fait six: architecture, sculpture, peinture, musique, danse, poésie. Et Canudo dit, ben le cinéma, finalement, c'est un art de synthèse. C'est le septième art parce que c'est l'art qui vient après tous les autres et qui vient d'une certaine manière aussi couronner tous les autres. Mais le fait que le cinéma soit un art de synthèse pose d'autres problèmes. Est-ce que ça le rend supérieur aux autres arts ou au contraire inférieur? Alors pourquoi inférieur? Parce qu'en fait, dans le cinéma, le fait que peuvent se croiser l'architecture avec les décors, la sculpture également avec les décors, la peinture, bien sûr, avec la composition de l'image, la profondeur de champ, etc. La musique, la danse, avec la chorégraphie des corps, finalement, et puis la poésie, avec les dialogues, le texte, etc. Eh bien, dans le cinéma, il y a toujours le risque d'en rajouter, en fait, c'est-à-dire de produire de manière un peu mécanique et de produire par la redondance des moyens entre le récit, l'image et la musique, des effets, des émotions qui seraient un peu systématiques. Sur toutes ces questions, je vous renvoie, chers auditeurs, à un livre très intéressant de Jean-Yves Chateau qui s'appelle justement « Pourquoi un septième art ?» Pourquoi un septième art de Jean-Yves Chateau. Alors, ces soupçons qui pèsent sur le cinéma, ils vont peser encore plus sur les genres qui sont jugés trop populaires ou trop vulgaires, sur des films qui produisent un plaisir trop immédiat. Parce que le plaisir, paradoxalement, dans les discours sur l'art, est souvent suspect. Il y a par exemple un texte de Félibien, de 1668, donc il ne parle pas de cinéma ou de western, évidemment, il parle à l'époque de peinture. Un texte de Félibien de 1666, où justement il établit une hiérarchie sur les genres en peinture. Il dit les genres les plus bas, ce sont ceux qui donnent un plaisir immédiat, qui plaisent immédiatement. Et les genres les plus hauts, c'est ceux qui supposent au contraire un travail de l'esprit, une intellectualisation, et qui fait qu'ils sont en fait difficiles d'accès. Le fait d'être difficile d'accès serait un critère de noblesse et de légitimité. Et donc, dans l'histoire de l'art, et notamment dans l'histoire du cinéma, et notamment dans l'histoire du western, il va y avoir toujours cette tendance à opposer d'un côté le caractère populaire et le caractère artistique. Et donc, les films d'art et d'essai, entre guillemets, la catégorie art et essai, eh bien, ça produirait des films qui seraient justement peu accessibles au grand public. Et à l'inverse, les films populaires, accessibles au grand public, ne relèveraient pas de l'art, mais simplement du loisir, du divertissement, etc. Or, il faut le constater, la plupart des westerns, la grande majorité des westerns, appartiennent à cette catégorie. Des films populaires, des films connus, des films que tout le monde va voir en famille dans les années 50, dans les années 60 et au-delà. Et donc, il est évident que le western, pour toutes ces raisons, n'est pas apparu d'emblée comme un genre légitime, comme un genre noble, comme faisant partie du grand art. Purple lies in the canyons, that's where I long to be with my three. Donc, ces questions étant assez complexes, aujourd'hui j'ai essayé plutôt de penser la question du cinéma en général comme forme d'art. Et dans la prochaine chronique, j'approfondirai la question du western, voilà, sur les processus de légitimation qui ont été relatifs à ce genre particulier, à ces films particuliers que sont les westerns.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.